Et bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission Passerelle. Je me trouve actuellement au Chez du Terral dans le cadre du Quad Jazz Festival qui aura lieu jusqu'à ce dimanche 9 novembre avec une programmation riche et éclectique autour du jazz. Et je me trouve là actuellement parce que tout à l'heure nous allons interviewer Naïssam Jalal, flûtiste et chanteuse avec les autres membres de son groupe qui viennent interpréter leur album Quest of the Invisible ce soir au Chez du Terral et on a très hâte de discuter avec eux. Mais pour l'instant on va présenter ce qu'est le Chez du Terral avec notre première invitée Inès Niederlander qui est chargée de la programmation et coordinatrice du Chez du Terral. Bonjour Inès.
Bonjour Samuel, bonjour à tous.
Alors déjà, ce qu'on peut dire pour les auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas encore le Chez du Terral, c'est que c'est très beau, c'est un petit écrin de nature dans lequel on est bien.
Alors effectivement, on a une chance assez incroyable de travailler ici au quotidien. Donc le domaine du Terral, c'est le lieu culturel de la ville de Saint-Jean-de-Védas. Ce domaine, il comprend plusieurs équipes, une école de musique, une école d'art plastique, donc les équipes du théâtre et du festival Festin de rue. Donc on a également un grand parc, le parc du Terral. Donc effectivement, on est dans un cadre somptueux et je pense qu'on a tous un grand plaisir à travailler ici au quotidien.
Comme vous disiez, voilà, il y a la partie spectacle, il y a aussi une partie exposition, le parc, l'école de musique juste à côté. Et vous ne faites pas seulement que du jazz, le Chez du Terral propose toute l'année une programmation aussi tout à fait éclectique, à l'image aussi du Quad Jazz Festival.
Alors exactement, donc depuis de nombreuses années, le théâtre du Chez du Terral propose une ligne artistique, on va dire, qui s'intitule Art mixte et culture croisée. Donc ce sont vraiment des spectacles pour beaucoup pluridisciplinaires qui mêlent plusieurs disciplines au plateau. Parfois on a des spectacles de théâtre, de musique et régulièrement des disciplines croisées. Cette année encore, c'est l'ADN de cet équipement culturel et de ce théâtre municipal.
On peut parler déjà pour donner un peu une idée justement aux auditrices, auditeurs, des spectacles par exemple qui auront lieu prochainement au Chez.
Donc évidemment ce soir, la belle collaboration qu'on a depuis plusieurs années avec le Quad Jazz, donc Naïssam Jalal et ses deux musiciens, pour ce concert Quest of the Invisible. Donc on a hâte de découvrir ce soir. Ce samedi, on aura le plaisir d'accueillir la compagnie La Mince Affaire autour d'une nouvelle proposition qui s'appelle Backstage. En effet, depuis l'année dernière, on a initié ce qu'on appelle les samedis en famille. Ce sont tout simplement des propositions qui se déroulent certains samedis de l'année à 17h. Et là, on est vraiment sur une cible familiale, intergénérationnelle. L'idée étant de pouvoir se rendre au théâtre avec les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, en famille, pour voir une proposition adaptée. Donc ce spectacle de cirque backstage raconte les coulisses de deux circassiens. Alors aussi bien le stress avant de monter sur scène que les préparations, que la création d'un spectacle. Et donc autour de ces propositions à 17h, on propose toujours des ateliers parents-enfants qui sont gratuits et qui se déroulent en début d'après-midi, de telle façon que l'atelier permet à un enfant d'avoir une expérimentation avec un parent ou du moins un adulte, d'avoir un petit goûter offert par le théâtre et d'assister au spectacle à 17h. Donc on a quatre propositions de ce type dans l'année, donc ce sont les samedis en famille. Voilà pour samedi 8 novembre. Par la suite, on accueillera une compagnie Teatro Picaro qui vient nous présenter L'Homme et le Pêcheur, un spectacle qui a eu un grand succès au Festival d'Avignon. Il s'agit d'un spectacle absurde dans le sens où on va se questionner sur le sens de nos vies. Et les deux interprètes talentueux vont nous faire passer du rire au questionnement sur nos propres peurs et nos propres désirs. Voilà, L'Homme et le Pêcheur, ce sera le vendredi 14 novembre à 20h, à découvrir absolument si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller au Festival d'Avignon. Le mercredi 19 novembre, on va faire une proposition d'une lecture à la médiathèque Jules Verne, qui est notre partenaire, médiathèque de la métropole de Montpellier. Donc la médiathèque se situe à Saint-Jean-de-Védas, on collabore régulièrement avec eux. Et là, en l'occurrence, il s'agit de présenter le texte d'un auteur contemporain qui s'appelle Marius von Mayenbourg. Donc ce texte, qui s'appelle « Le chien, la nuit et le couteau », va être présenté par les trois jeunes interprètes du collectif Plein Vent. Ce sera un extrait, c'est un rendez-vous gratuit, mercredi 19 novembre à la médiathèque Jules Verne. On vous invite à venir découvrir un extrait de ce texte, qui sera suivi d'un échange avec le public, pour vous donner envie de venir nous retrouver jeudi 27 novembre au théâtre, car vous pourrez découvrir à cette occasion la version théâtrale sur le plateau de cette adaptation de ce roman qui a eu effectivement un grand succès et qui est publié à l'Arche. Donc premier rendez-vous pour découvrir un extrait du texte mercredi 19 novembre à 19h à la médiathèque et restitution totale de la pièce jeudi 27 novembre à 20h au théâtre pour cette jeune compagnie montpelliéraine qui s'appelle le collectif Plein Vent.
C'est un spectacle, c'est bien, qui a l'air assez éprouvant aussi,
oui.
Assez dynamique et qui donne du corps. Quoi.
Oui,
les acteurs ont un véritable laboratoire.
Exactement. Alors là, on va de surprise en surprise parce que, en fait, l'histoire de cette œuvre, c'est qu'un jeune homme se réveille un matin et ne se souvient que d'une chose, c'est d'avoir mangé des moules la veille. Et depuis, le blackout, il ne se souvient de plus rien. Et donc, il va croiser des gens et il va essayer de savoir ce qui s'est passé. Et là, il va rencontrer des personnages inquiétants, absurdes, qui vont lui expliquer en fait des situations complètement cocasses et puis aussi une belle réflexion philosophique sur nous-mêmes, de quoi sommes-nous capables et est-ce qu'on se connaît vraiment tous aussi bien qu'on le pense. Donc voilà vraiment une belle compagnie, un beau collectif pardon, puisque c'est le collectif Plein Vent à découvrir le 27 novembre à 20h. Ouais. Et puis on finira le mois de novembre avec l'accueil du festival Les Nuits du Chat. Alors comme le Coaja, c'est un festival qu'on accueille au Chez du Terral depuis plusieurs années. Donc ce festival, Les Nuits du Chat, propose de la chanson française. Et en l'occurrence, on va accueillir un spectacle qui s'intitule Diva Syndicat. La compagnie Mise à Feu, donc ce sont deux pétillantes jeunes femmes qui vont nous parler de l'histoire de la musique interprétée par les femmes. Alors on va partir du Moyen-Âge jusqu'à l'époque actuelle avec Aya Nakamura notamment. Et donc ces deux divas vont nous expliquer l'impact et la présence forte des femmes dans la création musicale qui parfois a été mis un petit peu en marge au profit des hommes. Et bien on va rétablir un petit peu de vérité. Donc c'est un ovni musical, théâtral et surtout humoristique. On va rigoler avec ces deux drôles de personnages et elles vont se jouer des stéréotypes, s'amuser, nous amuser pour parler des femmes autrement et avec voilà, beaucoup d'humour et aussi de poésie, je pense.
Ah oui, il y a beaucoup d'absurdité, beaucoup de décalage aussi donc à travers cette programmation que vous proposez.
On a à cœur au Chez du Terral de proposer vraiment des spectacles accessibles, qui soient visuels, théâtrales, musicaux. Voilà, toutes les disciplines sont mises à l'honneur, le cirque aussi évidemment. Oui, on a besoin aussi d'avoir un petit peu de légèreté et d'absurdité par moment pour réfléchir ensemble, s'émouvoir, se questionner, rire. Voilà, ce sont autant d'émotions qu'on développe au travers de cette programmation. Ben, j'espère que le public sera nombreux, en tout cas on l'espère. Vous pourrez retrouver l'ensemble des informations sur notre site internet, donc chez du Terral. On est à votre disposition en billetterie pour répondre à vos questions, pour vous accompagner dans les choix de vos spectacles. Il y a des tarifs spécifiques, notamment dans le cadre d'un abonnement. Il est encore grand temps de s'en saisir. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux, notamment le Facebook du théâtre.
Merci Inès, on a hâte de découvrir le reste de la programmation et nous auditrices auditeurs on se retrouve tout à l'heure pour l'interview de Naïssam Jalal et ses comparses musiciens. Merci Inès.
Merci à vous, merci beaucoup.
Comme on disait tout à l'heure avec Inès, le Chez du Terral a aussi un lieu d'exposition et l'artiste qui est exposé actuellement c'est vous Seb avec l'exposition Anima, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter un peu l'exposition justement ?
Mais bonjour Samuel, je suis l'artiste actuellement qui expose au Chez du Terral, à la galerie Francis Porras. Je suis artiste plasticien de formation. L'exposition s'intitule Anima. Donc Anima, ça veut dire en latin, je vous fais la traduction, âme, c'est l'âme et le souffle de vie. L'anima, c'est à la fois le côté spirituel, mais aussi en psychanalyse, le côté créatif qui est associé à la féminité chez l'homme, en fait. C'est sur ces deux pans que j'ai choisi de travailler. J'ai présenté une soixantaine d'œuvres, plusieurs séries, parce que habituellement je travaille par série, et j'ai travaillé donc plutôt sur l'intériorité qui nous anime, justement. Parce que, en fait, c'est tout ce qui nous traverse, l'anima, c'est à la fois les souvenirs, des sentiments, des affects, des fantasmes. Donc, toutes ces séries, en fait, exposent et mettent en lumière notre complexité qui nous anime, donc, sans faire de jeu de mots, voilà.
Alors, vous avez un appétit particulier pour tout ce qui est du travail du découpage, des bandes, de la surexposition, aussi des motifs qui se répètent, mais de différentes manières.
À la base, j'ai commencé par la peinture, le dessin, et puis petit à petit, j'ai commencé à mettre du collage dans mes œuvres. Et le rapport s'est inversé, puisque maintenant, il y a plus de collage et un peu de peinture. Justement, je travaille des fonds en peinture, qu'après, je vais découper ces fonds et les intégrer dans mes compositions.
Est-ce que vous pourriez décrire une de vos œuvres pour donner le visuel aux auditrices, auditeurs?
Alors, essayez de... Sur la série, par exemple, vous ne pouvez pas me voir de là où je me regarde. À la fois, c'est un anti-portrait, puisque j'ai enlevé le visage. Je l'ai détouré avec un scalpel. Et par juxtaposition, je fais apparaître un fond. Alors, dans ce fond, ça peut être soit une peinture ou plusieurs images. Comme si je recréais un paysage mental. Ça peut être soit plusieurs photos, soit une seule photo, ça peut être aussi une architecture, pour essayer justement de recréer une forme d'intériorité, mais en même temps aussi, ça pose la question de notre identité aussi, parce que finalement, qui sommes-nous ? J'essaie de créer en fait cette proximité qui permettrait en fait de se voir dans chacun de ces anti-portraits en fait, voilà.
Et quelle entité vous y projetez de vous-même à l'intérieur de ces antiportraits? Donc qui ne sont pas forcément aussi des portraits de vous, mais des antiportraits de vous aussi?
Le choix d'une image induit forcément une forme d'empathie avec le choix initial en fait. Si on a choisi une image, c'est qu'elle fait appel à notre ressenti et à notre vécu. On s'aperçoit que finalement c'est pas anodin d'avoir choisi telle ou telle image parce que ça nous renvoie un moment de notre vie ou un souvenir ou quelqu'un qu'on a rencontré. C'est tout ça qui fait que voilà, cette empathie avec l'image est très forte dans le travail du collage, quoi. Une photo, c'est un instant arrêté sur un moment de notre vie. L'idée dans ce travail-là, c'est que rien n'est arrêté et que voilà, c'est une étape et que on continue et chaque fois on se construit petit à petit. La vie fait que voilà, on va s'enrichir et se métamorphoser par la même, quoi.
Oui, il y a cette donnée du mouvement qui est très forte aussi dans les œuvres exposées, notamment aussi à travers la danse, à travers des élans de corps féminins comme ça qui sont comme projetés, enflammés dans l'espace.
Justement, l'anima, donc l'âme, c'est une manière de s'élever. D'ailleurs, dans la racine du mot anima, il y a animation. Donc, comme vous dites, il y a le côté mouvement, la recherche du mouvement perpétuel, entre guillemets. Et en plus, je suis très attaché à la danse parce que, d'ailleurs, lors du vernissage qui a eu lieu le 7 octobre dernier, j'ai fait intervenir une danseuse contemporaine qui a monté une chorégraphie. Elle s'appelle Léa Gibault, c'est une danseuse qui a beaucoup de talent. En même temps, pendant qu'elle dansait, j'ai créé une vidéo qu'on a vidéoprojetée lors de sa performance. Donc il y avait vraiment un voyage immersif dans l'anima justement, et sa chorégraphie, elle l'a travaillée avec la thématique de mes œuvres. C'était vraiment un grand moment, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec elle et on espère le poursuivre, pourquoi pas dans un festival. Voilà.
Pour donner aussi encore une fois un peu plus de visuel pour ceux qui nous écoutent, avec quels autres artistes contemporains ou autres, on pourrait mettre en rapport votre travail ou en parallèle?
Moi j'ai beaucoup d'affection pour la période surréaliste, donc des artistes comme Max Ernst m'ont beaucoup influencé. J'aime beaucoup les collages de Jacques Prévert aussi, les Matisse aussi. Des collagistes contemporains comme John Stesacker, il détourne des images plutôt du cinéma américain, qui va mettre en lien avec des cartes postales. Un collagiste que j'aime beaucoup qui s'appelle aussi Jiří Kolář, c'est un collagiste tchèque qui a beaucoup expérimenté les techniques, notamment la technique du roulage. Et je me suis aperçu également que beaucoup d'artistes, en fait, expérimentaient par le biais du collage pour avancer dans leur propre travail. Parce que c'est une technique qui est très spontanée, ça permet de vite poser les idées sur le papier. Et c'est très frugal comme technique, j'aime beaucoup.
Où est-ce qu'on peut retrouver en images vos œuvres, sur Internet notamment?
Mon compte Instagram, c'est SEBM1304, tout attaché. Et sur Facebook, à Sébastien Mas.
Donc pour l'exposition Anima, qu'on pourra aussi aller voir chez Duterral jusqu'à quand?
Jusqu'au 26 novembre. Allez-y, dépêchez-vous. Je vous invite à venir. Le chez Duterral n'est pas ouvert tous les jours, je tiens à préciser. C'est ouvert les mercredis de 10h à 13h, de 14h à 18h. Et les vendredis de 13h à 17h. Et c'est aussi ouvert les soirs de spectacle. notamment ce soir avec The Quest of Invisible.
Vous, l'invisible, qu'est-ce que ça vous évoque ?
C'est ce qu'on n'arrive pas à exprimer déjà verbalement, mais aussi par le biais de l'image. Mais justement, une image laisse toujours une part de mystère. C'est ça l'invisible de l'image, en fait. Ce mystère-là, c'est le spectateur qui va essayer de l'élucider, d'essayer de le comprendre, ou pas forcément. Mais en tout cas, donner une porte ouverte à leur imaginaire.
Et nous aussi, on va ouvrir nos imaginaires et tout de suite passer un morceau de Naïssam Jalal. Toujours sur Radio Pays d'Hérault et RPHE Sud. Et mon collègue, mon confrère, mon ami des Hauts-Cantons vient de me rejoindre au chez Dutérale. J'ai nommé le cher, le pro du jazz, le masterpiece, Thierry Rioux.
Voilà, on peut même faire la pub, c'est tous les derniers, tous les quatrièmes lundis du mois sur Radio Pays d'Hérault, RPH Sud. Voilà, on a jazz, le jazz pour le jazz, pour ceux qui pensaient ne pas aimer le jazz, parce que c'est une musique pour toutes les oreilles.
Exactement, c'est ce qu'on disait, c'est une musique qui rejoint toutes les musiques, c'est la musique la fusionnante par excellence.
Exactement, et on pense toujours qu'on n'aime pas le jazz. Alors moi je dis tout le temps, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des personnes qui disent non, le jazz j'aime pas, parce qu'ils ont toujours, ils imaginent les grosses caricatures, alors que non, le jazz c'est comme les fruits. Des fois vous n'aimez pas la banane, c'est pas pour autant que vous n'aimez pas les fruits. Le jazz c'est pareil, tu peux ne pas aimer le bop ou le hard bop, mais tu peux aimer tous les autres jazz, tous les autres styles. C'est pas les styles qui manquent en jazz. Il n'y a pas un instrument qui n'existe pas, il n'y a pas un rythme qui n'existe pas. J'ai fait ma pub, ça sera le quatrième lundi du mois sur Radio Pays d'Hérault, RPH Sud. Regarde, on a déjà plein de public.
Et voilà, on a déjà du public parce qu'on est actuellement dans le parc qui fait face au théâtre, et on te retrouve aussi sur, bien sûr, dans l'émission On ne viendra pas à Bédarieux par hasard. Alors Naïssam Jalal, on se demande, parce que j'en ai parlé mais j'ai pas dit qui c'était, je l'ai même pas présenté, mais Thierry, tu as préparé une petite présentation pour nous mettre l'eau à la bouche avant qu'on aille dans les loges.
On va la retrouver dans quelques instants, c'est son spectacle ce soir. Alors moi j'ai bossé sérieusement, hein. Je sais pas comme toi, ouais on s'amuse. Non, j'ai tout écrit quand même pour la présenter. Naïssam Jalal, pour vous la présenter, c'est qui ? C'est d'abord une flûtiste, c'est une chanteuse, une compositrice franco-syrienne. Elle est connue et reconnue pour sa capacité à tisser des liens avec les différentes cultures musicales. C'est une artiste qui aime avant tout réunir le jazz, mais pas que. Aussi la musique orientale, la musique du monde. Je pense qu'elle aime surtout déconstruire les frontières. Et on le voit encore ce soir, car c'est une formation qui est vraiment spéciale. C'est un trio ce soir, avec Naïssam Jalal à la flûte, à la voix aussi, mais elle sera également accompagnée par Leonardo Montana, qui lui est brésilien, s'il vous plaît, au piano, et Claude Chamichian, qui est français, franco-arménien, qui lui est à la contrebasse, et ils ont un son qui est, sont vraiment redoutables. Musique du monde, musique de jazz, ça sera dans quelques instants. Nous, on va voir le concert, et on va aller voir en même temps dans les loges pour tchatcher un peu.
Et tu as quand même une petite histoire aussi avec Leonardo, le pianiste.
Une petite histoire, on peut dire petite histoire, on en parlera tout à l'heure, hein, mais de voir, c'est avant qu'il y ait cette émission qui s'appelle Onda Jazz, j'avais un club qui s'appelait Onda Jazz, une onde de jazz. Ce club se trouvait à Lisbonne, il a vécu pendant 10 ans, il avait la spécificité de faire un concert par soir. C'est-à-dire au bout de 10 ans, on a fait 2000 concerts, mais entre les musiciens français, des musiciens brésiliens, des musiciens portugais. À chaque fois, on invitait nous des musiciens français et on leur faisait rencontrer les musiciens portugais et on faisait des concerts, voilà, 2000 concerts. La petite histoire, c'est que ce soir, Leonardo Montana, je ne sais pas s'il s'en souvient, ce qui tourne beaucoup, mais il était venu pour jouer chez nous. Il a dû venir deux fois. Alors je ne sais pas s'il était venu pour accompagner Anne Passeo qui avait joué chez nous ou si c'était pour Sofia Ribeiro qui est une chanteuse portugaise qui est formidable qui était venue l'accompagner. On lui posera la question tout à l'heure.
Ça marche, à tout de suite dans les loges. Et ça y est, on est avec Naïssam Jalal qui va tout à l'heure nous interpréter son album, toujours aussi magnifique, après plusieurs années, Quête of the Invisible, ou la quête de l'invisible, parce que l'invisible est au cœur du projet, la spiritualité, le sens, le silence, c'est ça qui est à la base. Ben, déjà, bonjour.
Bonjour.
C'est un projet qui a commencé en 2019. Comment est-ce qu'il a évolué aujourd'hui, à travers toutes ces années? Comment vous portez encore aujourd'hui ce projet?
Alors, Quest of the Invisible, c'est carrément né en 2017, en fait. Et on a fait, je sais pas combien de centaines de concerts dans le monde entier avec les copains. Et du coup, la relation qu'on entretient avec cette musique, c'est une relation hyper intime. Je pense qu'aujourd'hui, cette musique que j'ai composée, elle appartient autant à moi qu'aux copains. On est comme quand on rentre à la maison. Quand on joue cette musique, c'est comme quand on rentre à la maison.
On voudrait revenir à la base, en même temps, de parler de vous-même, Naïssam Jalal, musicienne. On ne peut pas poser que le jazz. Parler de jazz juste avec vous, ça serait une erreur. Derrière le jazz, il y a aussi la musique du monde. Je crois que vous avez eu un prix, mais carrément pour un album inclassable.
Effectivement, cet album, il a reçu les victoires du jazz en catégorie album inclassable. Et elle n'existe plus, cette catégorie, d'ailleurs.
Voilà, il y a maintenant, c'est pour les amoureux des étiquettes, ceux qui veulent absolument classer tout le monde, il y a maintenant l'étiquette des inclassables. Le jazz, si on veut le définir, c'est avant tout l'improvisation, c'est l'improvisation qui permet un dialogue avec les autres. C'est dans cette improvisation que vous êtes né très rapidement, je crois que vous avez improvisé.
Alors, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous venez de dire. Le jazz, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit le jazz, c'est une musique traditionnelle afro-américaine, qui est l'héritage des Afro-Américains, qui est le swing, voilà, en gros. Et dans cette définition-là, je ne fais pas du tout du jazz. Et il y a une autre définition qui est celle qu'on utilise aujourd'hui communément, mais qui n'est pas juste, mais qui est celle qu'on utilise, c'est-à-dire qu'en gros, le jazz, c'est une musique de création dans laquelle il y a de l'improvisation. Pourquoi je dis musique de création? C'est-à-dire que je veux dire musique contemporaine dans laquelle il y a de l'improvisation. Parce qu'en fait, l'improvisation, ce n'est pas du tout lié au jazz. Il y a de l'improvisation dans la musique africaine, il y a de l'improvisation dans les musiques arabes, dans les musiques africaines, dans la musique hindoustanie, dans la musique carnatique, dans toutes les musiques du monde, en fait, dans toutes les musiques du monde, dans la musique bretonne, dans la musique occitane, dans la tarentelle, dans ce que vous voulez, dans toutes les musiques du monde, et même des musiques savantes du monde, il y a de l'improvisation. Donc ce n'est pas le propre du jazz, mais ça fait partie du jazz, effectivement.
C'est une grande identité quand même du jazz. Là-dessus, on pourrait avoir un gros débat, je pense, pour parler de l'improvisation et du jazz.
C'est une grande identité du jazz, mais c'est une grande identité de toutes les musiques du monde, en fait.
Oui, mais il y en a beaucoup. Après, c'est quand on veut coller, quand on veut mettre des étiquettes, on n'y arrivera plus. Mais dans le jazz, justement, c'est cette liberté de pouvoir s'exprimer et d'improviser qui sont sortis avec le jazz. C'est vrai que cette liberté de s'exprimer et de rencontrer d'autres musiciens et de partir sur des lignes d'improvisation, ça a été, à défaut, comme vous dites, on le retrouve aussi dans des musiques bretonnes ou dans la musique indienne. Mais cette musique indienne, ceux qui vont l'écouter, ils vont peut-être dire... Et ça, c'est un petit peu du jazz, parce que dans le jazz, pour moi, c'est la seule musique où il n'y a pas un instrument qui n'existe pas. Il n'y a pas une culture qui n'est pas représentée. Il n'y a pas un tempo ou un rythme qui n'existe pas. Ils existent tous. Et l'improvisation qui fait force. Moi, quand je vous écoute, j'entends du jazz.
Bah, c'est super que tu entends du jazz. Je suis très contente. Mais par exemple, moi, quand j'étais au conservatoire et que j'ai voulu prendre des cours de jazz à l'époque, on m'a répondu que je ne pouvais pas en faire parce que je faisais de la flûte.
Parce que dans les conservatoires, l'improvisation n'existait pas.
Non. Tu m'écoutes ce que j'ai en train de te dire ? Que dans le département jazz, j'ai demandé à étudier le jazz et qu'on m'a rebooté parce que je jouais de la flûte et que la flûte, ce n'est pas un instrument pour le jazz. C'est pour ça que je te dis que le jazz, la définition du jazz, la définition historique du jazz, c'est quelque chose de bien spécifique et ce n'est pas l'improvisation, la
pas
définition.
Pas que l'improvisation.
Non, non. Le jazz, c'est un répertoire. C'est une musique qui est fondée sur le swing. Bah, au départ, c'est ça. Si ça te plaît ou si ça te plaît pas, je m'en fous.
Non, ouais, mais on fera pas un débat.
Ça, c'est historique, en fait, ce que je suis en train de te dire. C'est pas ma vision du jazz.
Le swing, c'est pas juste le jazz. Et le jazz était là avant le swing aussi. Le swing, c'est une forme de jazz aussi. Mais c'est pas, le jazz n'est pas que swing.
Maintenant, tu parles.
Bah, maintenant, oui.
Voilà. Mais donc, c'est ce que je disais au départ. C'est qu'en fait, si on considère que le jazz, c'est une musique traditionnelle afro-américaine, elle est liée au swing. Parce que ce que je suis en train de te dire, c'est que le swing n'existe que dans le jazz.
Oui.
Par contre, l'improvisation existe dans des milliers de musiques.
Dans les musiques qu'on entend aujourd'hui, dans les cultures profondes, oui, à la base, mais autrement, dans les musiques qu'on entend aujourd'hui, quelles sont les musiques où il y a autant d'improvisation et de partage que le jazz ?
Dans la musique hindoustanie, il y a de l'improvisation. C'est que de l'improvisation, la musique hindoustanie. Ce n'est que de l'improvisation. Le rag va durer 1h30. T'as un concert qui va être développé pendant 1h30 sur un rag en particulier. Ce n'est que de l'improvisation. Le musicien improvise pendant 1h30. Il joue aucune compo. Quand tu vas dans la musique arabe, on va dire que c'est un peu comme le jazz dans la mesure où il y a d'abord un thème qui va être exposé, ensuite une grande plage d'improvisation et de nouveau une réexposition du thème. Donc en fait, ce truc de structure avec l'exposition du thème d'abord, puis ensuite une longue improvisation et de nouveau une réexposition du thème, ça c'est quelque chose qui existe dans le jazz, mais qui existe aussi dans la musique classique arabe. Et après, bon, moi je connais pas toutes les musiques du monde, mais en tout cas je sais que là au moins ça existe depuis bien longtemps dans la musique classique arabe. C'est une forme qui existe depuis très très longtemps, qui est très ancienne, tu vois.
Ok, voilà, on a fait une discussion, on pourrait en discuter très longtemps, je crois, parce que c'est très important. Le jazz, l'improvisation, pour moi, c'est vrai que tout à l'heure, tu me parlais des conservatoires. Vous ne pouvez pas faire d'improvisation parce que flûte, parce que vous jouiez de la flûte.
Non, c'est pas ça que je t'ai dit.
C'est vrai qu'il n'y avait pas d'improvisation pour la flûte.
Non, c'est pas ça que je t'ai dit.
Ah bon, ah, d'accord.
Ce que je t'ai dit, c'est que dans le conservatoire, il y a deux départements. Il y a le département de musique classique, où moi j'étais, et il y a le département de jazz. D'accord. Le département de jazz.
Okay.
D'accord ? Et dans le département de jazz,
il y avait pas la flûte.
On m'a pas autorisé à intégrer le département de jazz parce que j'étais flûtiste. Donc tu vois, par exemple, tu dis oui, le jazz, c'est une musique où il y a tous les instruments. Non. Dans ta définition du jazz, c'est une musique où il y a tous les
instruments. Quel instrument il n'y a pas dans le jazz ?
En fait, on n'est pas d'accord sur la...
Oui, voilà, parce que Magic Malik, par exemple...
Tu vois, Magic Malik, je lui ai dit ça au gars, au prof de jazz. Ouais. Je lui ai dit, mais Magic Malik, il m'a dit non, c'est des musiques actuelles.
Ouais, bon, on tombe dans les étiquetages.
Non, mais c'est pour ça que ce que je suis en train de te dire, c'est d'accord. Que en fait, c'est pas si simple que ça, en fait. Tu vois, toi, tu penses que le jazz c'est une musique qui est ouverte, qui est trop fun, où les gens se rencontrent et ils improvisent ensemble et tout. Mais non. En fait, c'est aussi une musique traditionnelle avec des codes qui peut être très fermée,
Ok, mais parce qu'on ne se comprend pas. Je suis entièrement d'accord. Oui, il y a dans le jazz, mais c'est ce que je dis à la base. Il y a pas, quand je dis, il y a pas une musique qui n'existe pas, il y a pas un tempo, il y a pas un rythme qui n'existe pas. Moi, il y a plein de jazz qui me gonfle, qui me fatigue, que je supporte pas, parce qu'on ne peut pas tout aimer. Mais par contre, je suis un amoureux du jazz sur énormément de musique. Mais je ne veux pas. Il y a des personnes qui disent, ah, le jazz c'est chiant, c'est impossible, parce que tu peux ne pas aimer le bop, tu peux détester le hard bop, mais être amoureux du jazz. Il y a de l'afro jazz qui existe. Alors maintenant, on met des étiquettes partout. Mais c'est vrai que Miles Davis, au bout de son troisième album, on disait, ça c'est plus trop jazz. Ce qu'il a commencé à faire, là c'est plus trop jazz. Et donc c'est quoi le jazz ? On a chacun sa peut-être. Quand je parle d'improvisation, je parle pas de l'improvisation qui est obligatoire. C'est un ressenti, c'est une liberté. Et pour moi, le jazz, c'est en premier la liberté. Tu vas me dire, ah ben il y a d'autres musiques qui sont attachées à la liberté, j'en connais plein, que tu pratiques certainement. Mais pour moi, le jazz, le début, c'est la liberté de pouvoir s'exprimer, de partager avec d'autres sous forme d'improvisation, sans qu'il y ait forcément un thème, improvisation, thème. Il y a d'autres structures, mais il y a plein de musiques qui peuvent être gonflantes. C'est tellement large. On ne peut pas dire « je n'aime pas le jazz ». Ce que je te disais tout à l'heure, on peut dire « j'aime pas les bananes », on ne dit pas « j'aime pas les fruits » pour autant. Et le jazz, pour moi, c'est la même chose. C'est tellement riche. Par contre, c'est vrai qu'on veut toujours, malheureusement, on veut toujours coller des étiquettes. Ça, c'est jazz. Ou ça, c'est jazz telle forme. Ou ça, c'est plus du jazz, c'est musique du monde. Maintenant on colle des étiquettes.
En fait, si tu veux considérer que le jazz, c'est la musique contemporaine, donc une musique de création dans laquelle il y a de l'improvisation... Là, je te rejoins. C'est pour ça que je t'ai proposé deux définitions au départ.
Oui.
Je t'ai dit, si le jazz, c'est la musique traditionnelle afro-américaine, ben, dans ce cas-là, c'est quelque chose de bien précis, dans lequel il n'y a pas de flûte, dans lequel il n'y a pas de violon, dans lequel il n'y a pas plein d'instruments, en fait, et dans lequel il y a du swing, dans lequel il y a plein de choses. Mais si tu considères que le jazz, c'est une musique contemporaine dans laquelle il y a de l'improvisation, dans ce cas-là, je te rejoins. C'est ce que je t'ai dit, c'est avec ça que j'ai commencé, en fait.
Ok. Je voudrais qu'on revienne quand même un petit peu sur toi, parce que là, on parle d'improvisation, du jazz, etc. Parlons de ta musique et surtout de ce trio ce soir avec trois musiciens qui ont quand même, sont des musiciens qui ont une forte personnalité, qui ont une culture différente et en même temps pour faire une seule. Moi, je dis souvent aussi, c'est souvent en mélangeant les différentes cultures qu'on obtient la plus grande richesse. Et là, c'est ce qui se fait un petit peu avec Leonardo Montana, plus brésilien, avec Claude Chamichian qui est arménien, franco-arménien, et avec toi qui est franco-syrienne. Comment ça s'est passé, les thèmes choisis, ce sont les tiens?
Oui, c'est moi qui ai composé le répertoire. Au départ, j'avais envie de composer un répertoire autour du silence et de la transe. Et j'ai proposé à Léo de le faire avec moi. On a fait un ou deux concerts avec quelques morceaux du répertoire. Et il manquait Claude. Et je ne connaissais pas Claude à l'époque. Et on m'avait parlé de lui, donc je l'ai appelé. Et comme Claude, c'est quelqu'un de très respecté, c'est un incroyable musicien, et il n'a pas du tout mon âge, donc on n'est pas de la même génération. Donc j'avais beaucoup d'appréhension qui me disent « Bon, toi, la petite jeune, non, j'ai pas le temps. » Et en fait, il a été très gentil, m'a invité chez lui, on a joué ensemble et il avait, je pense, le plus beau son de basse qu'il y a en France. J'étais trop chaude pour lui proposer. Il a accepté avec gentillesse mon invitation. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé ce trio de Quest of the Invisible. Le premier concert, en plus, c'était pas en trio, vraiment, c'était en quartet. Avec Hamid Drake à la percu et à la batterie. Non, juste à la percu, juste au DAF. Et voilà, en fait, l'idée, c'était vraiment de travailler sur le silence et la transe. Après, je pense que, si tu veux, dans le répertoire, il y a des longs moments d'improvisation. Mais l'improvisation, elle raconte le même narratif que l'écriture. C'est-à-dire qu'en fait, le travail, il est fait de manière à ce que le narratif de la pièce guide l'improvisation. Et donc, les gars sont absolument libres de la manière dont ils vont raconter l'histoire, tant qu'ils racontent cette histoire-là et qu'ils n'en racontent pas une autre, en fait. En gros, c'est ça. Donc, je pense que chacun, avec sa culture, qui n'est pas forcément parfois liée aux origines, qui peut être liée aux origines, mais qui peut être aussi... lié à ce que tu te construis, en fait. Je veux dire, l'identité, c'est pas juste nos origines, c'est pas juste ce avec quoi on est né. Notre identité, c'est ce qu'on choisit d'incarner chaque jour. Et donc, je pense que chacun, avec sa culture, s'est saisi de ce répertoire et s'est saisi de cette musique pour la raconter avec moi, avec son propre langage.
Pour ne faire qu'une seule musique, mais même avec la qualité de ces musiciens-là, j'ai l'impression qu'ils soutiennent beaucoup la flûte et la voix, enfin la voix qui est vraiment mélangée avec la flûte dans ce qu'on entend, et on les entend, on les sent en soutien, et il y a beaucoup d'espace dans cette musique, dans ce que j'ai entendu, il y a beaucoup d'espace, je ne sais pas si toi tu parlerais de silence, mais il y a l'essentiel, c'est juste l'essentiel, et t'as une grande liberté, ce qui permet une grande liberté dans le trio. Enfin, c'est ce que moi, je ressens.
En fait, effectivement, il y a beaucoup d'espace parce que c'est ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est vraiment d'essayer d'être dans les purs, d'être dans le rien. Et ça, c'est à la fois un parti pris esthétique, mais c'est aussi un parti pris politique, puisque en fait, on est dans une société de consommation, de remplir, plus. Et que nous, au contraire, on a pris le parti justement parce qu'on est dans quelque chose de spirituel. Donc la spiritualité, c'est l'inverse du matérialisme, en fait. Okay. Donc quand on est dans cette démarche-là, c'est une démarche à la fois spirituelle, à la fois esthétique et à la fois politique. Et donc on a choisi de se retenir, on a choisi de se taire à certains moments, on a choisi de vraiment faire l'effort d'aller à l'essentiel, de ne pas être dans le bavardage, de ne pas être dans la consommation, de ne pas être dans le show-off, quoi, de ne pas être dans la démonstration. Mais au contraire, d'être dans une expression plus subtile et plus dépouillée.
C'est marrant comment tu interprètes les choses en consommation en production. On aime consommer avec ceux qui, les musiciens, qui balancent plein de notes. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de musique où il y a des centaines de musiques, absolument remplir pour remplir. Mais je crois que souvent, ceux qui remplissent, la peur du silence, ou toi, ou vous, dans le trio, vous avez justement d'installer le silence. Tout le monde a peur du silence, généralement. Dès qu'on dit rien, ça fait bizarre, ça fait... Faut placer le silence, et le silence qui est vachement important. Il faut être très bon musicien, d'avoir confiance pour dire « je peux ne pas jouer, même si je ne joue pas ». On est là, la musique, vous l'entendez encore, parce qu'il y a quelque chose qui se partage, c'est ce que tu parles peut-être avec la spiritualité. Alors, c'était marrant de le mettre sous forme de consommation, parce que c'est vrai qu'on balance ceux qui sont... Mais en même temps, avec la peur, non ? Avec ceux qui remplissent, c'est toujours parce qu'ils ont peur du silence, non ?
Oui, tu veux dire que c'est pas juste politique, mais c'est aussi existentiel, tu veux dire, c'est ça ?
Oui.
Oui, ouais, bien sûr. Mais tout ça, ça va ensemble.
Et est-ce que les guerres actuelles qu'on traverse, est-ce qu'elles ont eu un impact, justement, sur le narratif commun, sur la base des morceaux que vous interprétez aujourd'hui ?
Ça, c'est plus ancien, en fait. C'est-à-dire que moi, mon premier groupe, il s'appelle Rhythms of Resistance, et où j'ai donc fait un premier album où je parlais beaucoup du monde arabe et des révolutions qu'il y avait dans le monde arabe. Et je dois dire que la façon dont on a complètement abandonné le peuple syrien et le peuple palestinien depuis des années, ça m'a fait beaucoup de mal. Et que moi, j'étais dans une démarche militante, active. Et que de constater en fait cette impuissance, ça m'a un peu... obligé à déplacer en quelque sorte, même si j'ai pas abandonné complètement ni la résistance ni le militantisme, mais de déplacer un peu en quelque sorte mon combat de sphère, on va dire, et où je étais plus justement dans une démarche spirituelle, parce que je pense que quand on est tout le temps en colère, parce que le monde fait que on est tout le temps en colère, en fait on peut pas être tranquille dans ce monde. Je veux dire, là, il y a deux semaines, il y a une meuf au tribunal de Bobigny, en garde à vue, qui s'est fait violer par deux policiers. On est dans ce monde-là. On est dans ce monde où, au Congo, il y a des gens qui bossent dans des mines, des gamins qui bossent dans des mines, qui sont exploités pour nos téléphones portables. Et il y a des génocides en cours. On est dans un monde où on organise la famine à Gaza. Enfin, tu vois, on est dans un monde, en fait, où il y a moyen d'être tout le temps révolté, d'être tout le temps dans la colère. Et où en fait je me suis rendu compte que cette colère, au lieu de créer du mieux, elle peut aussi se retourner contre nous et nous détruire. Et donc c'est pour ça qu'à un moment j'ai un peu changé de direction. Non pas que je continue quand même à prendre la parole sur ces sujets-là, je continue quand même à aller en manif et tout, mais c'est vrai que je me suis dit bon, essayons d'organiser les choses autrement et de réhabiliter l'être au lieu de l'avoir. De réhabiliter le soin et de créer voilà, des espaces comme des refuges.
C'est vrai que quand on vous écoute, on est bien, enfin, on peut facilement se réapproprier votre musique et cet aspect de guérison, de se raconter sa propre histoire, d'avoir son petit moment de refuge à soi, je le trouve totalement présent en effet.
Trop bien.
Merci beaucoup en tout cas.
Merci à vous, merci.
À tout à l'heure. Merci. Et là maintenant, on va continuer... de ce trio avec les deux compères qui forment ce trio, avec Claude Chamichian et Léo Montana. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
On assistait juste simplement tout à l'heure à une petite pas une répétition, pendant que vous faisiez le son, à vous écouter un petit peu. ce soir, et vous pouvez nous faire un résumé, comment vous voyez ce trio. Une contrebasse qui est très présente, un piano, et ensemble, déjà, et vous connaissiez déjà tous les deux
Avant ce soir.
Non, pas avant ce soir. Non. Si vous connaissiez avant ce projet, avant l'album, il y a un album qui a sorti quand même. Tu te souviens que vous vous connaissez quand même.
Pardon, oui, avant le début de
ce projet, vous connaissiez
pas. C'est là
où
on s'est rencontrés avec Claude. Oui, oui.
Alors ça se passe comment là, déjà de votre premier point de rencontre quand vous rencontrez avec deux musiques différentes quand même, par rapport quand je regarde les musiciens que vous avez côtoyés, avec qui vous avez expérimenté et les chemins que vous avez pris.
Cite des noms.
Le guitariste, je pense pour toi, Marc Ducret, je crois. Oui, voilà, tu as travaillé beaucoup avec lui.
Qui est présent au festival.
C'est pas celui avec lequel j'ai le plus travaillé, mais régulièrement j'ai eu cette chance, oui, de travailler pas mal avec Marc.
Et Leonardo Montana, qui lui, plus style brésilien, plus envolé avec des chanteuses, et pas que, mais je pense, je sais pas pourquoi, je pense toujours à Sofia Ribeiro.
Ah oui, en plus ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Au moins 15 ans peut-être.
Alors, la combinaison entre vous deux, quand vous êtes rencontrés, ça marche sur l'écoute?
Les combinaisons, quelles qu'elles soient, elles marchent avant tout parce qu'il y a un projet. Et dans la rencontre avec Naïssam, il y avait un projet. Ensuite, on a la chance d'être dans une musique où on ne compose pas dans le vide. C'est-à-dire, certains compositeurs, et je ne fais pas de critique, hein, ce n'est pas mieux ou moins bien, mais j'ai l'impression que dans le monde du jazz ou des musiques où les orchestres sont très personnalisés, la première action de composition, c'est précisément le casting. Parce qu'on attend des uns et des autres qui se réapproprient la musique d'une certaine façon et que, en fin de compte, on travaille ensemble pour que s'il y ait un soliste, ce soit l'orchestre lui-même. Donc, par rapport à ça, il y a toute cette chose qui existe, entre autres, dans le monde du jazz, effectivement. Et quand Naïssam est arrivée, elle a soigneusement choisi les gens avec qui elle voulait travailler. Mmh. Elle a choisi des gens qui pouvaient répondre à ses attentes musicales, mais également humaines. On ne se connaissait pas avec Léo, mais ça a matché tout de suite parce que dans la tête, on est quand même sur un état d'esprit qui est le même. Et même si les parcours sont différents, je pense qu'il est très important de ne jamais confondre style et musique. Mmh. Et le plus important, en tout cas avec quelqu'un comme Naïssam, c'est qu'elle ne fait pas cette confusion. Donc on parle avant tout de musique et au contraire, les différences stylistiques sont là pour la nourrir et non pas pour les opposer. Et à partir de là, quand tout le monde est branché sur cet état d'esprit, ça marche.
Mais il faut que ça soit avec... Elle ne vous a pas choisi par hasard. Elle a pris des musiciens qui savent aussi écouter. Il faut savoir écouter. Il y a toute une vie, de façon qu'on parle avec Naïssam. On sent qu'il y a plein d'histoires à raconter. Il y a beaucoup de choses à partager. Et de votre part, pour l'accompagner, surtout pour le contrebassiste, je lui disais tout à l'heure, et c'est vrai que moi j'entends beaucoup de silence, beaucoup d'espace avec les notes, elles sont vraiment placées, ça permet, il y a beaucoup de respirations qui sont faites volontairement.
Ça a été aussi travaillé, parce que les tout débuts, en ce qui me concerne justement, et dans la position du contrebassiste, j'en mettais trop justement. Il a fallu tout un apprentissage parce que c'est pas une musique évidente et c'est pas évident à cause de l'écriture ou quoi que ce soit. C'est pas les thèmes les plus virtuoses qui soient. Par contre, la manière de les habiter et la manière de rentrer dans un état d'esprit, parce que son propos c'est le silence et la transe, c'est pas rien. C'est quelque chose qui engage tout un être, tout un physique, toute une pensée, toute une manière d'être. Et en ce sens-là, je pense qu'il y a une vraie connexion avec des musiques comme les musiques de jazz, qui sont des musiques qui sont avant tout pour exprimer un spirit. Et l'exprimer, quand on ne l'a pas généré, puisque Naïssam, elle savait ce qu'elle voulait, mais c'est toujours pareil, quand on est tous les trois leaders, tous les trois on a fait des choses, les premières fois qu'on arrive dans les répétitions, il faut accepter ce temps pour que les musiciens comprennent ce que tu veux et comprennent où tu veux aller, etc. etc. Donc oui, il y a, je pense, maintenant quelque chose où on arrive à respirer ensemble. Mais en ce qui me concerne, ça a été, il a fallu plusieurs concerts. Et Naïssam est une super leader par rapport à ça, parce qu'elle ne confond pas l'amitié et le travail. Ça ne veut pas dire, quand elle nous dit « Non, Claude, là, je préfère que tu ne bouges pas sur telle chose », je sais très bien que ce n'est pas par rapport à quelque chose où elle trouve que je fais moins bien si je faisais autrement. C'est qu'elle veut que je fasse ça parce que c'est là qu'elle va pouvoir générer l'état d'esprit et le spirit qu'elle recherche. Et en ce qui me concerne, la rencontre avec Naïssam est géniale parce que c'est une musique où j'ai l'impression que la manière d'avancer soi-même, c'est très souvent grâce aux autres. Et Naïssam est quelqu'un qui m'a fait énormément progresser.
Oui, et puis en plus, dans chaque concert, on a le même répertoire depuis le début et il ne change pas, et c'est la même setlist. Mais il y a vraiment... aucun concert qui ressemble à celui d'avant ou celui d'après ou celui d'il y a 20 fois. C'est vraiment, il y a quelque chose avec ce répertoire-là que Naïssam a composé qui est vraiment différent de plein d'autres répertoires. C'est chaque fois comme si on découvrait le répertoire pour la première fois. Donc c'est ce que je ressens.
Et aujourd'hui, vous arrivez avec quelle énergie, quelle émotion? Qu'est-ce que vous pensez qui va être transporté à travers votre interprétation ce soir? Est-ce qu'il y a des choses dont vous savez qu'elles vont arriver ou comment vous vous sentez actuellement?
À mon avis, la meilleure de choses, c'est d'essayer de rien prévoir. Parce que l'énergie qu'on a et la manière d'habiter la musique, en dehors de ce projet avec Naïssam, tous les trois, on l'a tout le temps. On fait la musique parce que c'est bien plus qu'une passion, c'est une nécessité absolue. C'est-à-dire que si on ne fait pas cette musique-là, et si on ne fait pas de toute façon de la musique, on va être profondément malheureux et on va mal vivre. Ensuite, Naïssam parlait tout à l'heure des implications, surtout par rapport à l'écho que provoquent toutes les situations qu'on vit actuellement, toutes les guerres, tous les génocides en cours et tout ça. Évidemment que les musiciens sont des éponges. Ils ont aussi un côté très, très miroir de l'époque, quelles que soient les musiques. Nous, par rapport à ce qui nous a constitués et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, l'énergie, je peux vous garantir qu'elle sera là de toute façon. Après, ce qu'il faut, c'est toujours, toujours arriver à mettre cette énergie dans ce propos, puisqu'aujourd'hui, on est là avec Quest of the Invisible. Donc, c'est ça qu'il faut. Mais l'énergie, elle est là, mais tout le temps. Tout le temps.
Oui, et puis on pourrait faire un concert maintenant ou dans une heure. Ce ne serait pas la même énergie. De toute façon, aujourd'hui, ça n'a aucun sens. C'est maintenant, toujours.
Donc l'interview avec Naïssam Jalal est terminée. Maintenant, nous sommes avec Alfred Vilailek, qui est donc directeur du Quad Jazz Festival et programmateur. Et voilà, une riche programmation. Alors, quel bilan tu tires? Déjà, on est seulement mercredi. Le festival aura lieu jusqu'à dimanche. Comment ça se passe?
On est absolument ravis parce qu'on a eu des concerts absolument fabuleux, une belle fréquentation. Notamment, on a eu le premier jour, on a eu la joie d'avoir le guitariste Gilad Exelman qui vient de New York avec deux compatriotes américains, donc Will Vinson et Nate Wood. C'était absolument, c'était au jam donc. dimanche soir. C'était vraiment une musique très atypique, finalement, pas très connotée jazz américain. C'était assez rock avec beaucoup d'électronique, et surtout c'était trois musiciens multi-instrumentistes incroyables, notamment le batteur qui joue de la basse en même temps. C'est un batteur qui s'appelle Nate Wood, qui joue beaucoup avec Ben Wendell dans le groupe qui s'appelait Knibody. C'était aussi le premier batteur de Tigran Amassian, donc c'est vraiment un des top batteurs américains dans ce style là jazz, mais un peu rock aussi, avec un son très rock. Et le voir jouer de la basse, donc il joue de la basse de la main gauche en faisant du tapping sur le manche et avec le reste de la batterie, c'était vraiment un truc incroyable. Et ensuite on a fait une super belle soirée à la brasserie Le Dôme, où il y avait le quartet d'Anne-Marie Jean, une très belle musique, assez, finalement c'était assez atypique aussi, parce qu'elle a fait beaucoup de musique improvisée, c'est-à-dire vraiment du free jazz, où ça partait vraiment du silence pour construire les morceaux. Et donc c'est vrai que dans la brasserie du Dôme, ils sont pas du tout habitués à ce style de musique, mais ça a créé un engouement et une écoute qui est assez nouvelle. Alors moi, j'étais finalement un peu désolé pour eux, parce que c'était un peu difficile, et en même temps j'étais assez content, parce que du coup c'était une écoute qui est différente. Souvent les gens, quand ils rentrent pour écouter un concert dans les bars à Montpellier ou des jam sessions, c'est avant tout l'occasion de boire un coup, et là justement les gens se sont vraiment tués. Il y a eu vraiment des beaux silences et une belle écoute sur cette soirée là et hier c'était aussi magnifique. Il y avait le duo de Eve Risser, donc qui est une pianiste alsacienne qui est vraiment une des plus talentueuses pianistes françaises à l'heure actuelle, hein, avec un répertoire très large qui va de la musique contemporaine jusqu'au jazz, jusqu'à la musique classique. Et elle était associée avec une chanteuse griotte malienne qui vient de Bamako, qui s'appelle Naini Diabaté. Donc c'est un mélange assez hyper étonnant entre ces deux musiciennes très très porteurs. Alors il faut savoir en plus que Naini nous racontait qu'actuellement la situation à Bamako est vraiment pire que catastrophique, parce qu'il y a un blocus des djihadistes sur la ville de Bamako. Et donc elle a vraiment chanté avec c'est une très grande griotte, elle est assez âgée, hein, finalement, et elle a vraiment chanté, elle a vraiment porté une voix magnifique hier soir. Et il y avait également le quintet, qui est un espèce de mélange de musique classique et jazz du saxophoniste Hugues Maillot, avec notamment violon, violoncelle et contrebasse, donc vraiment un jeu de cordes, et basson, clarinette et saxophone, quoi. Donc ça faisait vraiment une super soirée, voilà, en deux parties. Alors ce qui était très chouette en plus, c'est qu'ils se connaissent très bien tous. Il y avait une très très chouette ambiance aussi.
Ça te parle, ces musiciens, Thierry ?
Non, il y en a beaucoup que je ne connais pas, et c'est ça que je trouve impressionnant, et où je tire mon chapeau pour la programmation, c'est justement d'aller choisir des musiciens qui ne sont pas forcément les plus connus, parce qu'il y a des programmateurs, et je leur reproche souvent, qui vont chercher la facilité de reprendre des personnes qui ont fait déjà leur montée, qui n'ont plus rien à prouver, et où il y a déjà un public. Vous faites le contraire, vous allez chercher la qualité de chez des personnes qui sont moins connues, mais qui jouent des fois même mieux que des personnes qui sont très connues, et de montrer une richesse culturelle qui est assez impressionnante. Je ne sais pas comment vous faites pour aller chercher vous passez votre temps à écouter tout le temps.
Là, on m'a dit justement plusieurs fois que cette année la programmation était assez folle, quoi, parce que c'était très varié. Bon, alors tous les concerts sont vraiment d'une très très grande qualité, et on m'a posé plusieurs fois cette question, parce que je pense que cette année il y avait vraiment une connotation où on allait chercher des musiciens qui font moi j'ai un peu appelé ça dans l'édito que j'ai fait sur le festival, le jazz c'est une des premières musiques de fusion en fait, hein. C'est une musique qui mélange justement les influences africaines des musiciens afro-américains des États-Unis avec justement la musique classique occidentale. Et donc c'est ce mélange, donc on peut imaginer que peut-être que le jazz serait une des premières musiques de fusion. Après, j'oserais pas imaginer qu'il n'y ait pas de musique qui soit née sans une fusion entre plusieurs choses, quoi. Et donc là, à l'heure actuelle, c'est vrai que l'image que j'ai, moi, c'est que le jazz, justement, c'est quelque chose qui est en train de se répandre aussi dans le monde, hein. Tout ce qui est à partir du jazz, hein, et qu'il y a énormément de musiciens, notamment des musiciens comme ce soir, musiciennes comme Naïssam Jalal, qui a des origines syriennes, qui font ce mélange-là, mais très naturellement, parce que pour elle, je pense, on n'a pas eu l'occasion d'échanger encore là-dessus, c'est quelque chose tout à fait naturel, la musique qu'elle fait. Elle n'a pas du tout réfléchi en se disant je vais créer quelque chose de nouveau, mais c'est un mélange entre ses traditions familiales, en tout cas, hein, sa culture familiale, sa culture d'origine, donc de Syrie, et la musique qu'elle a pratiquée avec les gens étudiants en France. Donc voilà, je pense que maintenant il y a un peu, c'est pas complètement nouveau, hein, ça fait des années aussi que le jazz se mélange à toutes les musiques, mais maintenant il y a vraiment quelque chose de très naturel et vraiment des gens d'horizons complètement divers qui arrivent à collaborer ensemble, comme hier ce qu'on a vu entre la griotte, qui est vraiment une griotte malienne de tradition, et la pianiste alsacienne Evry Serre. Pour moi, c'est une belle image de la musique, et hier elles ont eu des belles ovations, justement, personne ne s'y trompait, c'est absolument magnifique de voir ça.
Alors on écoute l'émission les vendredis à 17h, il reste encore 3 soirées, n'est-ce pas, 3 jours de fête, 3 jours de jazz pour continuer le programme.
Oui, bah alors vendredi il y aura justement un musicien que j'ai rencontré en Allemagne, un chanteur qui s'appelle Salako, qui vient du Nigeria, donc ça va être un groupe d'afro-jazz, hein. Alors on a longuement discuté, puis après j'ai écouté sa musique, c'est complètement différent de ce qu'on a eu jusqu'à présent et ce qu'on aura après d'ailleurs, et c'est vraiment le jazz tel que les Africains, bah, après les Africains c'est très large, hein, mais en tout cas ce qu'ils pratiquent en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire c'est un jazz qui est, pour eux c'est du jazz, mais c'est vraiment du groove aussi, et c'est vraiment très mélangé entre chansons, groove et improvisation, et lui a une voix absolument magnifique, il vient avec tout un groupe nigérian. Bon, il faut dire, ça va groover vraiment sévèrement, il y a pas de, il y a ça, on en peut douter, et donc ça sera vendredi soir, donc à Castries, donc à la au foyer communal de Castries, et on a habillé un peu la soirée en invitant aussi de l'artisanat africain, des restaurations africaines, donc ça fera une soirée très sympa, je pense. Et le lendemain, donc le samedi, on va retourner au Jam pour un concert qui n'a absolument rien à voir. Ça va être un concert qui est vraiment de jazz d'avant-garde, avec le trio qui réunit Ralph Alesi, qui est un trompettiste qu'on a pu entendre notamment avec Steve Coleman, ou avec vraiment toute une clique de musiciens d'avant-garde plutôt autour de John Zorn, hein, quelque part, hein, aussi de pas vraiment de John Zorn, mais plutôt des musiciens d'avant-garde de Brooklyn. Disons, c'est vraiment un pur musicien d'avant-garde, de jazz d'avant-garde de New York, et qui a créé un trio il n'y a pas très longtemps, hein. Ils ont joué à Vitrolles, je pense, cette année, et après ce concert, ils iront jouer à Jazz d'Or aussi, à Strasbourg, et il a créé un trio avec le guitariste Marc Ducré, qui est un guitariste d'une virtuosité incroyable, hein, qui a commencé en jouant vraiment du jazz et qui est parti vers des horizons beaucoup plus rock, free, et donc voilà, on a plaisir vraiment à le recevoir de nouveau. Il était venu il y a une dizaine d'années avec son propre trio, et il sera aussi avec le batteur Jim Black, qui est un batteur qui est vraiment de New York aussi, qui vit en Europe depuis assez longtemps. Il avait ce groupe qui s'appelait Alas No Axis, donc il mélangeait vraiment rock et jazz assez free, quoi, finalement. Donc là, samedi, ça va être vraiment un concert de jazz d'avant-garde, de free jazz, avec 3 virtuoses qui vont à l'extrême de leur instrument, hein, chacun avec des manières de jouer incroyables. Et enfin le dimanche, on aura, et donc ça sera au Jazz, donc samedi, et le dimanche on aura le concert d'une création qui a été faite en Turquie, d'un groupe qui s'appelle Nomad, qui réunit 3 soufflants, donc tuba, flûte, saxophone, et un joueur de oud algérien, hein. Et donc ils ont fait une création en Turquie avec une chanteuse turque qui s'appelle Gulay Acertourouk, et ça aura lieu au théâtre Jérôme Savary le dimanche à 15h, et avant cela il y aura un brunch, donc c'est un moment de convivialité où on invite aussi les gens à venir manger avec un repas, un brunch préparé par l'équipe, et on termine ensuite avec le concert à 15h. Donc c'est une espèce de longue journée pour terminer en douceur le festival qu'on apprécie particulièrement.
Ne ratez pas les œufs mimosa.
C'est un festival où on vient plus écouter qu'entendre. Dans toute la programmation que vous balancez, c'est toujours avec des musiciens qui sont intègres, qui sont pleins. Vous parliez de Marc Ducré, par exemple, qui est un musicien où le public n'est pas unanime au début pour sa musique, mais c'est pas grave, il est resté sur sa musique, c'est ma musique, etc. Et aujourd'hui, c'est le musicien que l'on connaît qui s'est imposé, mais ce sont des musiques. Il faut y aller à ces festivals et pour ces musiques avec neutre, il faut y aller neutre et écouter, pas entendre. C'est la différence. Se laisser prendre par le son des musiciens, parce qu'ils sont à dire. Et c'est vrai que souvent, il y a une richesse de musicalité qui est à partager. Vraiment, respect, bravo pour cette initiative qui apporte toujours de l'oxygène par rapport à ce qu'on entend sur les... sur la musique générale. Donc là, c'est vraiment de la créativité, d'aller à la recherche, toujours à sortir des frontières. Et j'aime beaucoup ces partages qu'il y a, des cultures différentes autour d'une seule musique. Et c'est ce que vous faites avec le festival, avec toute la programmation que vous avez donnée. On voit dans tout le monde des univers différents autour d'une même musique.
c'est inhérent à la musique en elle-même. Hein. Et je pense que bah, quand on dit bon, bah, c'est à la fois un lieu commun et à la fois une phrase magique, c'est que la musique, c'est le langage universel. Donc là, on est en plein dedans. Quoi.
Ça marche. Bah, nous, on va aller voir le concert maintenant, Thierry. Et bonne journée à tous sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.